This is my Aunt Stella.
Stella! Stella!
Bazinga, punk, now we're even. You all right?
My leg is broken, the bone's coming through.
I'll give you a fucking bone, you prick! Where's my fucking money?
So you had coffee.
Right.
Dans le système pénal américain, le ministère public est représenté par deux groupes distincts mais d'égale importance. La police qui enquête sur les crimes et le procureur qui poursuit les criminels. Voici leur histoire.
Bien le bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Mix FM, série Folie, nouvel épisode, le 10e déjà. Bonsoir Aurore.
Bonsoir Ben.
10 épisodes passés très très vite finalement sur cette antenne. On va continuer sur la même lancée, on va parler série télé et on va directement décrire les news de la semaine.
Oui, alors j'ai pas grand chose pour cette semaine, mais comme d'habitude j'ai apporté quand même des pilotes qui permettront d'en dire davantage. Alors tout d'abord un renouvellement que personnellement je trouve un petit peu étonnant, mais bon, The Red Road, donc j'en avais parlé justement en tant que pilote il y a pas si longtemps que ça, c'était une histoire très embrouillée dans une réserve indienne et je vous avais dit que bon, ça me paraissait ni très clair ni particulièrement intéressant. Malgré tout, pour ceux qui ont aimé, il y aura une saison 2 l'année prochaine. Par contre, une autre série qui, elle, n'était pas si mauvaise que ça, a été annoncée comme annulée, c'est Almost Human, qui était diffusée sur la Fox depuis seulement quelques mois, novembre, je crois, ou décembre. C'est déjà fini. C'était une nouvelle série de J.J. Abrams qui suivait deux policiers dont l'un des deux était en vérité un robot dans un univers un peu futuriste, mais pas tant que ça, et ça aurait pu devenir bien, mais bon, ça ne le deviendra jamais.
Ils en ont décidé autrement, ça arrive,
Ça arrive, oui. Et voilà, c'est tout pour les news, et on passe donc au pilote que j'ai eu l'occasion de regarder. Je vais commencer par celui qui... Non, c'est pas tout à fait vrai, mais un qui m'a pas tellement plu, en tout cas, c'est Salem. Salem, c'est sur une chaîne à nouveau que je ne connais pas du tout, WGN. Bon.
Voilà.
Alors, Salem, donc, comme on s'en doute, ça se passe à l'époque des colons aux États-Unis et ça suit donc une histoire de sorcière. Ça se veut dans la réalisation assez réaliste. Ce qui est un petit peu bizarre et qui brouille les pistes selon moi, c'est que d'un côté c'est assez réaliste, mais du coup on se dit si c'est vraiment réaliste, ça devrait prendre en compte le fait que finalement c'était souvent de pauvres filles qui n'avaient pas grand chose à voir avec la sorcellerie, qui étaient brûlées ou maltraitées sous prétexte de sorcellerie. Et là, on mélange un petit peu le fait que oui, en effet, il y a des extrémistes religieux, on va dire, qui maltraitent et qui font un peu une chasse aux sorcières, mais en même temps, il y a vraiment des vraies sorcières
c'est
aussi.
Ça. On laisse planer le doute. C'est pas très clair au niveau de la définition de ce qu'on veut en dire vraiment.
Non. Alors, malgré tout, il y a une scène qui est assez impressionnante. C'est à un moment, le prêtre, j'imagine, du coin, met en laisse une femme qui est comme ça possédée et qui, un peu à la manière d'un chien vraiment harnaché et tout, va lui désigner la personne qui est considérée comme étant coupable. De je ne sais plus quoi, encore une fois, enfin l'avoir possédé, j'imagine. Cette scène-là est assez impressionnante parce que justement filmée de manière réaliste, mais bon voilà, à part ça le propos n'est pas très intéressant. On suit l'histoire d'une femme qui, au tout début de l'histoire, est enceinte alors qu'elle n'est pas mariée et que son mari vient de partir, enfin, que son compagnon, en tout cas le papa, vient de partir pour se battre à la guerre. Et donc, elle est obligée d'avorter dans les bois avec l'aide d'une sorcière. Et donc, elle va devenir elle-même une sorcière. Et lorsque, je ne sais pas combien d'années plus tard, le papa hypothétique en question revient, eh bien, elle est devenue la grande sorcière du village, et c'est un peu elle qui a tout le pouvoir et qui arrive même à manipuler les religieux pour faire tuer à sa place les gens qui la dérangent et qui risqueraient de la faire repérer, quoi. Bon, voilà. Malgré tout, j'abandonne pas. Je regarderai un second épisode, mais ça me paraît pas absolument indispensable.
Voilà, ça part pas sur les chapeaux de roue.
Non.
Ok.
Deuxième pilote, cette fois-ci, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus léger. C'est sur MTV et c'est Faking It. Alors, bon, c'est une petite série pour ados qui se passe donc dans un lycée, avec ce que ça peut comprendre de clichés, etc. Là, en effet, c'est particulièrement cliché. La seule différence, on va dire, c'est que souvent dans ce genre de milieu-là, mais on a justement les sportifs et les pom-pom girls qui gèrent un petit peu tout et qui rejettent tous ceux qui sont un petit peu, qui sortent un petit peu de cette norme-là. Ici, on est dans un lycée qui est à l'inverse, c'est-à-dire qu'il valorise absolument la différence, les gens qui ont un style de vie un peu particulier, et ceux qui ne sont pas comme ça, qui sont un peu trop normaux, sont pas rejetés, mais en tout cas ne sont pas tellement appréciés par les lycéens. Alors bon, ça m'a paru extrêmement cliché, et en même temps, il y a peut-être une promesse qui a un petit propos un petit peu intéressant, c'est-à-dire que Faking It, en fait, bon, ça veut dire le faire semblant, hein, cacher quelque chose, mais il s'agit ici de suivre deux filles qui font semblant, qui vont faire semblant pour justement acquérir un peu de notoriété dans ce lycée qui valorise absolument la différence, d'être un couple de lesbiennes. Et on croit comprendre déjà dès le pilote que l'une des deux pourrait peut-être en fait l'être pour de vrai. Donc, elle fait semblant vis-à-vis de sa meilleure amie de faire semblant, alors qu'en fait, elle l'est vraiment. Il y a peut-être un... Donc...
Un double faux semblant.
Voilà. Donc, pourquoi pas.
On est complètement perdu. Okay.
Pourquoi pas. Bon, malgré tout, comme c'est MTV, on se doute que ça risque très vite de tourner au truc bon enfant et pas extrêmement profond, mais bon, je continuerai quand même à regarder un deuxième épisode pour voir si ça...
Jusque là, c'est divertissant. Ta curiosité est piquée à vie.
Ma curiosité a été piquée par cette petite promesse là, en tout cas. Alors bon, ça c'était deux pilotes comme ça. Maintenant, on va passer à du lourd.
Le vrai pilote, voilà, du moment, à ne surtout pas rater, la nouvelle série en vogue, dans ton cœur.
En tout cas, dans mon cœur, ça y est, elle a pris la place numéro 1.
Ben, j'avoue que pour moi aussi, j'ai eu la chance de suivre celle-là avec toi, et ouais, il y a du lourd.
Ben ça faisait quand même un petit temps qu'on n'avait pas vu un pilote comme ça. J'ai vraiment été emballée, c'est Fargo. Alors Fargo, au départ, c'était un film des frères Coen que je crois beaucoup de gens ont vu, hein, et qui suivait le parcours d'un loser à ordonner à deux bras cassés d'enlever sa femme pour pouvoir obtenir l'argent dont il a besoin, je crois, pour rembourser des dettes ou quelque chose comme ça. Et les deux criminels bras cassés en question vont finir par tuer la femme, et donc ça va partir de plus en plus en vrille à partir de là. Ici, on pourrait s'attendre à ce que ce soit simplement une reprise de cette histoire-là. Et par chance, ça n'est pas ça. Parce que sinon, j'imagine qu'on s'ennuierait quand même un peu. Là, on est dans le même univers, c'est-à-dire dans un sous la neige, avec une sorte de petit village paumé américain dans lequel bon on a quand même beaucoup de gens assez idiots voire totalement incapables quoi hein. Donc on est là-dedans et on a notamment un homme qui a servi un peu de bouc émissaire à tout le monde toute sa vie. C'est vraiment le loser. Et d'ailleurs, en regardant ce pilote, j'ai eu une forte impression de familiarité avec le pilote de Breaking Bad, par exemple. Parce que c'est vraiment un homme qui s'en prend plein la gueule comme ça, et sans rien dire, qui se laisse faire. Bon. Et puis, à partir de cette proposition de départ, eh bien, il va rencontrer par hasard un homme qui va lui dire, bah, écoutez, si vous voulez, cet homme qui vous maltraite pour le moment, parce qu'il vient de se faire casser la figure, eh bien, si vous voulez, je m'en occupe. Si vous me dites oui, c'est parti, je m'en occupe. Et bon, évidemment, il n'y croit pas vraiment, il y a un malentendu, il dit oui sans vraiment le dire, et donc l'homme disparaît, meurt en effet un jour plus tard, et à partir de là, les événements vont s'enchaîner de manière assez tragique, mais en même temps, c'est extrêmement drôle.
Oui, c'est assez cocasse, hein. Bon, oui. Voilà, c'est quelqu'un de faible et qui se retrouve dans des situations tout à fait terribles, si on devait vivre ça dans la vraie vie... Et on voit petit à petit cette envie de pouvoir un peu l'envahir par moment.
Par moment, oui. Voilà. Et en même temps, il perd complètement les pieds et les pédales parce qu'il se retrouve dans un enchaînement d'événements qu'il n'est pas capable de gérer. À tout ça se rajoute de plus en plus de personnages vraiment drôles et assez savoureux, je trouve, qui donnent le piment et qui promettent beaucoup pour la suite de la série. Je disais qu'on pensait notamment au pilote de Breaking Bad, ben on y retrouve notamment l'acteur qui jouait Saul Goodman, mm-hmm. Bob Odenkirk, quelque chose comme ça. Et donc ça fait aussi un petit clin d'œil par là. On a aussi Adam Goldberg qui se retrouve là à partir de l'épisode 2. Enfin, c'est assez agréable. J'ai oublié de dire que le rôle du pauvre type était joué par Martin Freeman. Voilà.
Très bien, une série à suivre avec
oui.
certitude.
Et cette fois-ci, c'est sur FX et je dois souligner quand même que FX fait d'excellentes séries depuis quelques années et ça fait vraiment plaisir.
Très bien, petite pause en musique. Il est temps, on va repartir avec un extrait de...
Avec un extrait de Nashville, ce sont les deux petites filles, Lennon et Missy Stella, qui chantent « Oh, hey ».
Très bien, on se retrouve juste après.
The blood that I would bleed, I don't know where I
Les séries sont-elles éducatives ? Depuis une vingtaine d'années, les séries comme Urgence ou New York District, qui nous plongent d'une manière qui se veut très réaliste dans l'univers et le jargon médical, judiciaire ou autre, on a souvent tendance à penser que certaines séries nous apprennent des choses. Les termes comme lupus, tachycardie ou charge de la preuve n'ont plus de secret pour nous, en tout cas en apparence. Pourtant, médecins ou policiers sont souvent beaucoup plus critiques sur l'intérêt et la fiabilité des informations en question, et l'apparent réalisme de la réalisation risque de donner une illusion de vérité bien plus grande que ce qu'il nous permet réellement de maîtriser et comprendre. Entre illusion et réalité, les séries peuvent-elles vraiment nous apprendre des choses ? La question est donc plus complexe qu'on ne pourrait imaginer au départ. Bien qu'il faille faire très attention à ne pas prendre pour argent comptant la pseudo-science dont nous abreuvent certaines séries, il serait dommage de leur renier tout intérêt pédagogique. Au même titre que les films introduisaient au débat dans les soirées télé de notre enfance ou illustraient une matière vue par le professeur d'histoire, les séries sont des supports intéressants, riches et extrêmement diversifiés dont il serait bête de se priver. Qu'il s'agisse d'en tirer une ambiance générale, un message à portée philosophique ou politique, ou encore de les critiquer pour leurs nombreuses approximations, accompagnées de la mise en contexte adaptée, toute série peut servir à l'enrichissement de nos connaissances et notre réflexion. La télévision peut aussi rendre actif. À vous de vous y attacher.
Merci Aurore pour... ce débat qui se prépare dans quelques secondes, on va parler de tout cela ensemble, juste après une petite pause musicale. Je vois sur ma petite liste George Overkill, Girl You'll Be a Woman Soon, c'est sorti de...
Misfits.
Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is... He's not your kind. They never get tired of putting it down, and I never know when I come around what I'm gonna find. Don't let them break up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Please come take my I'm not afraid to
Les séries télé sont-elles éducatives? Sujet du débat du jour, Aurore.
Oui.
Qu'est-ce qu'on en pense? Parce que c'est assez flou. Je pense que sur une base purement théorique, sur des termes, on va dire, techniques, que ce soit dans la médecine ou la police, c'est souvent sorti du contexte ou exagéré. Très peu éducatif, peut-être, si on suit très fort le cursus.
En tout cas, d'une série à l'autre, ça peut varier énormément. Et puis, il y a beaucoup de séries qui peuvent donner une illusion de scientificité.
Oui, de alors maîtrise que... du sujet, alors que c'est tout à fait à côté.
Oui, alors que c'est probablement n'importe quoi. Mm-hmm. Donc, il faut quand même faire très attention à ne pas prendre tout ça pour argent comptant. Ce serait évidemment se fourvoir complètement.
Maintenant, moi, je préfère un autre aspect que tu as abordé dans ta petite mise en bouche tout à l'heure. C'est plus l'aspect éducatif côté découverte, par exemple, de paysages, de modes de vie qui m'intéresse dans les séries télé. Et là, j'y prends vraiment quelque chose pour moi. Enfin, c'est vraiment pour moi une découverte.
Mais c'est vrai que il y a bon malgré tout rien ne remplace évidemment le fait d'aller sur place et peut-être qu'on serait surpris parfois de voir que ça ne ressemble pas à ce qui nous est représenté mais en tout cas il y a certaines séries qui ont véritablement comme volonté de nous faire ressentir l'ambiance du lieu et de s'attacher le plus possible à tout ce qui peut se faire dans la région et qui donc sont particulièrement intéressantes et qui peuvent même avoir une certaine valeur éducative grâce à ça. C'est vrai.
De par le réalisme, moi parfois je regarde certaines séries télévisées, certaines, je dis bien, comme des documentaires presque, hein, vraiment. Hein.
Mais de plus en plus, la ligne de démarcation entre les documentaires ou les reportages et puis la fiction se brouille de plus en plus parce qu'en effet, certaines séries sont de plus en plus réalistes et certains documentaires sont de plus en plus fictionnalisés. Donc, c'est vrai que parfois, pour avoir une idée claire de ce qui se passe réellement, il vaut mieux regarder une bonne série qu'un mauvais documentaire.
Waouh, ça c'est une vanne bien placée. Tu as des exemples de documentaires qui t'auraient déçu?
Je n'ai pas d'exemple particulier de documentaire, probablement parce que je regarde beaucoup trop de séries,
oui.
Véritablement. Mais c'est vrai que il y a certains documentaires qui donnent l'impression d'embarquer véritablement dans le milieu de la drogue ou le milieu de la prostitution. Et puis, on se rend assez vite compte quand même que
tout ça est bidonné ou exagéré.
Largement scénarisé et finalement le fait de construire ça de toutes pièces mais en disant clairement on fait une série mais on essaie d'être au plus proche de la réalité de ce qui est vécu sur le terrain, ça peut à la limite permettre un beaucoup plus grand réalisme que de filmer les choses qu'on veut bien nous présenter.
Bien.
Il me semble. Hein.
Oui, mais je vois le type de reportage qui est ciblé par ta critique.
Mais bon, au-delà de ça, je crois que dans la présentation que j'ai faite du sujet de la semaine, j'essayais aussi de dire, quelque part, regarder les séries, ça ne doit pas forcément toujours être quelque chose de totalement passif. Et quand on est un minimum critique sur ce qu'on regarde et qu'on se pose des questions sur le message qui nous est transmis, sur ce qu'on en a retenu, sur les éléments qui peuvent être critiquables et qui ne sont pas très réalistes ou qui sont à la limite même nous donne un message plutôt rétrograde, etc. Eh bien, on peut véritablement regarder la télévision de manière active et intelligente. Et c'est un petit peu ça que j'essaie de défendre. C'est le fait que regarder la télévision, c'est pas forcément une activité plus idiote qu'une autre. Tout dépend comment on le fait.
Oui, d'accord, mais parfois ça peut énerver. Moi, tu le sais, je repère assez rapidement les affabulations techniques, par exemple, dans une série télévisée ou dans un film. ça a le don de m'énerver quand même, ça gâche le contenu de la série. Quand j'ai repéré ça, moi, je suis déçu. Enfin, tu vois.
Mais on a tous nos sensibilités en fonction de, en effet, de ce qu'on connaît plus ou moins. Hein. C'est vrai que moi, j'ai déjà dit plusieurs fois, je crois, dans cette émission, que j'avais beaucoup de mal avec les séries historiques. Mais c'est vrai que en grande partie, c'est le fait que je vois trop à quel point c'est mis au goût du jour et finalement assez peu ressemblant de ce que devait être la réalité de l'époque qui me rend particulièrement sensible aux séries historiques et qui me les rendent souvent insupportables. C'est clair que pour toi, ce sera plus les aspects techniques parce que tu es plus formé à ça. Et pour moi, ben c'est vrai que le fait que qu'on se serve souvent des contextes du Moyen-Âge ou de l'Antiquité pour représenter de la fesse et du sexe sans aucune autre justification que le fait que oh ben oui mais on est au Moyen-Âge donc forcément tout s'explique. Bon, ça me paraît un petit peu facile, ça m'étonnerait que c'était véritablement comme ça. Et malgré tout, je crois qu'on a véritablement un imaginaire de notre passé qui est extrêmement forgé par ce qu'on a pu en voir. Alors à l'époque, c'était dans les films, par exemple, quand notre imaginaire de la Seconde Guerre mondiale est totalement forgé par ce qu'on en a vu dans les films au cinéma, qui sont principalement des films américains, qui nous représentent donc la guerre d'une certaine manière. Mais c'est la même chose aujourd'hui avec
un certain point de vue. C'est, voilà.
Oui, eh bien aujourd'hui, les séries, et c'est beaucoup les séries qui nous représentent des temps anciens qui sont censés être beaucoup plus barbares que notre époque civilisée. Mais pourquoi on choisit ces époques-là? C'est surtout pour avoir des excuses pour montrer des seins et des fesses, quoi.
Okay.
Et parfois, ça ne se justifie pas entièrement par l'histoire, je crois qu'on peut le dire.
C'est parfois ridicule.
Oui, c'est parfois un peu ridicule.
C'est vendeur, mais bon, quand on en a vu autant que toi, je suppose, on est blasé. Voilà.
Ah, mais moi, les fesses et les seins, je ne vois que ça. Bref, tout ça pour dire, quoi que vous regardiez, de toute façon, il y a moyen de le regarder intelligemment et d'en tirer quelque chose, malgré tout.
Merci Aurore pour cette belle conclusion. On va repartir en musique avec Louis Armstrong, What a Wonderful World, sorti d'une série télévisée.
Oui, mais on parlait justement de série historique, ici c'est le cas, c'est Tour of Duty, c'était L'Enfer du Devoir, je crois, en français.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you, and I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, dark sacred night, and I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They're like much more than I ever knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a
What a wonderful way.
Nous en sommes déjà arrivés à la critique d'une série télé, une série télé qu'on peut caractériser de fantastique, Heaven. On a reconnu le générique. Qu'est-ce qu'il y a à en dire, Aurore ?
Alors, pourquoi j'ai voulu parler de Heaven ? Je vais d'abord expliquer ça. Déjà, c'est une série déjà que j'aime bien, mais ça, c'est comme toujours. Mais surtout, je voulais parler de celle-là parce que je trouve ça injuste qu'on parle ou qu'on ait parlé autant de Under the Dome, qui était la série tirée d'un livre de Stephen King, alors qu'en vérité ça fait déjà 4 ans qu'il y a une série tirée d'un livre de Stephen King qui est à l'antenne et
donc,
qui selon moi est bien meilleure, dont on parle
moins
et qui est bien meilleure. Donc voilà, je voulais faire un petit peu la revanche de Heaven par rapport à Under the Dome.
Merci pour les producteurs de la série, merci pour eux.
Ben oui, je suis sûre qu'ils avaient besoin de moi en plus. Bon, donc, qu'est-ce qu'on peut en dire ? C'est une série de sci-fi, la chaîne sci-fi, qui est diffusée depuis 2010, qui n'est pas encore finie, et qui met en scène Emily Rose, Luca Bryant et Eric Balfour dans les rôles principaux. Elle a été créée par Sam Ernst et Jim Dunn d'après le roman Colorado Kid de Stephen King. Donc, alors on y retrouve comme personnage principal Audrey Parker, qui est au départ une agent du FBI et qui va venir pour une enquête dans ce petit village du bord de mer, enfin. Mer ou océan, on va dire plutôt océan
un
dans
océan,
ce cas-ci.
Voilà.
Audrey Parker donc arrive dans ce village et dès qu'elle arrive, il commence à y avoir des phénomènes surnaturels qui n'arrêtent pas de risquer de tuer, voire de tuer pour du vrai des gens du village et de risquer de la tuer elle. Et ses compagnons, puisque assez vite elle va faire équipe avec un policier du coin qui est Nathan Wuornos et un petit malfrat, on va dire, du coin qui est Duke Crocker. Ensemble, donc, après s'être rendu compte qu'ils étaient, mais ça, bon, les deux garçons le savaient déjà vu qu'ils vivaient déjà là, mais Audrey va assez vite se rendre compte que c'est un village assez particulier dans lequel il y a une certaine quantité d'habitants qui sont maudits ou je sais pas comment ils les appellent exactement, mais bon, ils ont à chaque fois un pouvoir ou une malédiction sur eux qui font que parfois ils risquent d'être dangereux pour eux-mêmes ou pour les autres. Déjà rien que Nathan lui-même est un de ces maudit,
ensorcelé, avec
voilà,
un pouvoir,
puisque il ne ressent absolument rien, donc quand il se casse un os ou qu'il se blesse ou quoi que ce soit, il ne ressent ni la douleur ni d'ailleurs de sensations agréables non plus, il ne ressent rien. Donc on apprend ça assez vite. Et puis, ben, à chaque épisode, à peu près, il va s'agir d'arrêter une personne qui met en danger la collectivité, puisque Audrey Parker va se révéler assez rapidement avoir une certaine capacité justement à gérer ces personnes-là. Je vous propose d'écouter un extrait qui explique ben, justement un petit peu ce contexte-là. Et puis, on va revenir sur les différents critères qui vont nous permettre de critiquer cette série.
Once upon a time, there was a little town in Maine called Haven.
My God, you're going to put everyone to sleep.
Fine, you do it.
Thank you, I will. Some townsfolk of Haven.
Townsfolk?
Shut up.
Some of the residents have supernatural afflictions. We call them troubled. Their afflictions are passed down through their families.
The troubles have been dormant for some time. They've recently come back.
Fortunately, Audrey Parker came to town and joined the police department. She seems to have special insights into Haven. For some reason, she's not affected by the troubles.
Audrey's partner on the police force is Nathan Warnes, and helping out from the wrong side of the law is Duke Crocker.
Of course, we're the real aces in the hole. Vince and Dave Takes, brothers and owners of the Haven Herald.
Voilà, après ce petit extrait qui nous rappelle donc les faits par la bouche de deux personnages secondaires mais néanmoins assez récurrents dans la série, nous allons passer à la critique à travers les différents critères. Et le premier de ces critères dont je vais parler, c'est l'univers. L'univers dont il est question est un univers fantastique, on l'a dit, ce qui va permettre énormément d'évolution, puisque au départ, on a simplement des petites enquêtes, épisode après épisode, qui n'ont pas véritablement de lien entre elles, simplement le fait qu'à chaque fois, il va s'agir d'arrêter une personne ayant une malédiction, on va dire, mais à partir de là, va se développer un univers et un propos beaucoup plus foisonnant, puisque petit à petit, il va y avoir la question de l'identité de Audrey, qui au départ, on croyait, était simplement une agente du FBI, mais qui va se révéler être plus compliqué que ça, puisque déjà dès le départ on voit que il y a une photo d'une fille lui ressemblant sur une vieille coupure de journaux qui date d'il y a je sais plus combien d'années, mais très longtemps. Ce serait 27 ans, que ça ne m'étonnerait pas vu que c'est du Stephen King. D'ailleurs, à ce propos, on a surtout dans les premières saisons beaucoup de références à différentes œuvres de Stephen King, puisque justement, comme à chaque épisode, on a des personnes ayant des pouvoirs différents, on va pouvoir retrouver des pouvoirs qui ont été traités dans les différents livres de Stephen King. Donc pour les fans de Stephen King, cette série est assez agréable à regarder aussi pour ça, parce que ça va flatter un petit peu tout ce qu'il a déjà vu et connu, beaucoup plus, là je réenfonce le clou, que Under the Dome.
Oui, tu n'as pas aimé cette série.
Non, j'ai pas trouvé ça terrible. Hein. Et pourtant, j'ai regardé la saison 1 jusqu'au bout. Hein.
C'est dire.
Voilà, c'était courageux. Voilà. Mais donc, cet univers va devenir de plus en plus compliqué avec le fait que Audrey Parker finalement va pouvoir jouer plusieurs personnages en fonction des époques dans lesquelles on va se trouver. On va avoir également des groupes à chaque fois de pression qui vont travailler soit pour protéger les personnes qui ont une malédiction, soit plutôt pour essayer de les éliminer. Chacun, les deux garçons qui accompagnent Audrey Parker, donc Nathan et Duke, vont également avoir des histoires individuelles qui vont se rajouter à tout ça. Et en bref, à chaque saison, on rajoute une couche et ça devient de plus en plus compliqué. C'est le genre de série qui récompense quelque part la fidélité du sériphile. Et ça, pour un sériphile, c'est plutôt appréciable, hein, en tout cas, il me semble. Donc voilà, on a un univers en constante évolution qui fait beaucoup de références à Stephen King, des intrigues à chaque fois assez amusantes et très renouvelées et créatives. Donc ça nous fait déjà autant de raisons d'apprécier cette série-là. Pour finir, on a également des personnages assez intéressants et on a un traitement également de une série de petits traitements qu'est-ce que je raconte, une série de sujets autour de ces personnages, comme une sorte de triangle amoureux qui va se former petit à petit entre Audrey, Nathan et Duke, qui est aussi assez agréable quand on suit la série depuis assez longtemps. On va avoir l'occasion de suivre aussi cette recherche d'identité de Audrey Parker qui va devenir de plus en plus compliqué, je crois que vous l'aurez compris. Et puis, un propos plus général aussi sur qu'est-ce qu'on fait de ces personnes qui sont manifestement différentes, comment est-ce qu'on les gère. On voit que clairement, à travers les différents groupes qui peuvent se former pour essayer de les éliminer ou au contraire de les défendre, on va avoir un propos un petit peu plus sociopolitique sur cette question de la gestion de la différence dans une collectivité. Donc voilà, autant de raisons, il me semble, pour trouver que cette série est absolument passionnante et s'y replonger avec délectation.
Très bien, petite question peut-être plus personnelle. Est-ce que tu as eu l'occasion de lire certains des bouquins de Stephen King qui ont été traités ou en tout cas qui ont rapport avec des personnages qui ont existé dans ces récits ?
Alors, à chaque fois, il ne s'agit pas de traiter un personnage du récit.
Non, je comprends bien.
Mais par contre, comme on va avoir différentes malédictions, on va avoir notamment une personne dont la malédiction, c'est de recréer les plus grandes peurs de chacun des protagonistes. Donc du coup, ça nous fait penser à ça. Le fait également qu'il y ait une sorte de circularité du temps, à nouveau, je l'ai dit, je crois que c'est tous les 27 ans, comme dans ça également, on a comme ça toutes sortes de références qui
sont un peu plus floues, c'est pas vraiment spécifique à des bouquins précis. Par contre, il y en a un dont tu nous as parlé, qui est c'est adapté.
Oui.
Adapté d'un bouquin précis.
Colorado Kids.
Celui-là, tu ne l'as pas lu.
Celui-là, je ne l'ai pas lu.
Tu n'as pas eu l'occasion, tu n'as pas le temps, tu regardes trop la télévision.
Mais voilà.
Très bien. Bon, c'est assez clair pour moi et je suppose que Stephen King n'a rien à voir dans la production de ce type de série. Il vend les droits d'un de ses bouquins et ça s'arrête là.
Oui, c'est vraiment... Mais d'ailleurs, c'est malheureusement pour ça que souvent les films qui ont été faits de ses livres étaient assez mauvais. En tout cas, pendant de nombreuses années, ça a été le cas. C'est quelqu'un qui est assez généreux avec son œuvre. Une fois qu'il l'a écrite, c'est peut-être uniquement par à pas du gain, hein. Alors du coup sa générosité serait due à son
avarice,
ça j'en sais rien, mais en tout cas il laisse véritablement les gens faire comme ils l'entendent à partir de son œuvre. C'est aussi le cas pour Under the Dome, mais disons que il me semble que c'est beaucoup mieux fait et beaucoup plus fin dans Heaven.
Nous l'aurons compris, oui. Ok, on va repartir en musique, puisque on est quand même là pour ça aussi. Qu'avons-nous, dis-moi.
Alors, donc, on a un extrait musical de cette série, c'est Sweet Talk Radio, qui est un groupe qu'on entend beaucoup dans la série, avec Dance With Me.
Dance with me, come and sweep me off my feet. I feel this way every time that eyes meet. Don't wait and stay a stranger. What's life without a little danger? Oh, darling, won't you please dance with me? Take a chance with me. Gamble on romance with me. If they'd always played it safe, where would legendary lovers be? Alone on starlit nights, no arms to hold on tight. Oh, darling, won't you dance with me? Love can be like a rose, a few thorns as it grows, but divine when it blooms. Petals of sweet perfume, oh, dance with me.
La machine à remonter le temps dans Série Folie. On va évidemment parler d'une série que vous avez certainement tous reconnue, en tout cas la plupart d'entre vous. Il s'agit de Scrubs. Alors Aurore, qu'est-ce que tu vas nous raconter? Une belle histoire, j'espère.
Oui, alors on va commencer par présenter Scrubs. Scrubs, c'est une série qui a été diffusée de 2001 à 2010, c'est-à-dire qu'elle a connu 9 saisons, même si elle a connu sur la fin un destin assez particulier, puisqu'elle a été diffusée sur NBC jusque... à la 7-8e saison. À la 7e saison, il y a eu la grève des scénaristes, ce qui a posé pas mal de problèmes. Et elle a fini sur ABC. Elle a été transférée pour la 9e saison, qui était présentée comme une sorte de spin-off, même si ça s'appelait toujours Scrubs et certains des personnages revenaient plus ou moins régulièrement. Mais il y avait un changement de décor, puisque ce n'était plus dans l'hôpital, mais dans une sorte de faculté qui permettait aux futurs médecins d'apprendre leur métier. Donc voilà, ça a connu une fin un petit peu décevante à cause de ça, mais comme beaucoup de séries qui ont été diffusées en même temps que la grève des scénaristes et les nombreux problèmes qui s'en sont suivis dans cette année-là ou l'année suivante. Bon, alors, elle a été créée par Bill Lawrence et on y retrouve dans les rôles principaux Zach Braff, Sarah Chalk, Donald Faison, John C. McGinley, Judy Reyes et Neil Flynn. Voilà, pour le casting. On va s'écouter un petit extrait qui nous met déjà directement dans l'ambiance de la série et puis je vous donnerai 3 raisons pour lesquelles se replonger dans cette série-là.
Never actually done one of these unsupervised before.
And that's when I realized tonight we really were all alone running the hospital.
Family, Joe's in charge of our days and our nights. charge.
Charles in charge of our wrongs and our rights. And I see, I want Charles in charge of me.
Voilà, donc on vient de l'entendre dans ce petit extrait. On a la voix de Zach Braff et puis on a également le groupe de Ted. Ted, c'est l'avocat loser de l'hôpital qui reprend des vieux classiques. Et justement, des vieux classiques ici de la télévision même, hein, même s'ils changent, ils changent régulièrement. Mais ici, c'est la première raison pour laquelle il me semble que c'est vraiment agréable de replonger dans cette série-là. C'est l'univers extrêmement riche, extrêmement inventif et qui fait constamment des références à la culture populaire et à la musique également de cette époque-là et également des 20 années précédentes. On a constamment comme ça autant dans la bande originale des musiques assez connues, des vieilles reprises, etc. On a constamment les personnages qui font référence à d'autres séries ou bien à d'autres événements qui se sont passés à cette époque-là ou précédemment. On a à chaque fois dans l'imagination du personnage principal de JD des gags, des petites séquences totalement loufoques, comme par exemple l'épisode où à chaque fois il a l'impression que un nain va sortir de son casier pour venir le frapper dans les parties intimes, où à chaque fois il y a à chaque épisode de nouveaux petits gags inventifs comme ça qui rendent véritablement la série agréable et savoureuse en elle-même. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'ai oublié de le dire également, mais ça suit donc plusieurs internes qui commencent à l'hôpital et ça va les suivre donc pendant plus de 9 ans. Hein. Alors, deuxième raison pour laquelle cette série est également agréable, ce sont les personnages. On a des personnages qui, dès le départ, sont assez bien dessinés. On arrive très vite à les identifier, à les caractériser et ils sont très attachants. Principalement, j'ai l'impression, le personnage de JD qui est absolument génial en soi, mais à travers le personnage de JD, on voit également tous les autres personnages avec énormément d'empathie. Par exemple, le personnage du Dr Cox, qui pourrait être quelqu'un de plutôt antipathique, parce qu'il est vu à travers le regard de JD, on devient plutôt une figure attachante de la série. On a un casting qui, au début, était assez peu connu. La plupart des personnes qui se sont lancées dans cette aventure étaient des acteurs très peu reconnus avant et qui ont vraiment explosé grâce à cette série-là. Évidemment, principalement Zach Braff, mais ça a été également le cas de tous les autres. Enfin, troisième et dernière raison pour laquelle il me semble que c'est assez intéressant également de se replonger dans Scrubs, c'est que même si c'est extrêmement drôle, c'est toujours également au service d'un message plus sérieux. C'est une de ces séries, ça se faisait beaucoup il y a quelques années, dans lesquelles on a constamment une voix off qui nous explique ce qui se passe et qui tire une petite morale bien souvent de ce qui arrive aux différents personnages. Ici, la voix off, c'est la voix de JD, quasiment à chaque épisode. Et même si c'est très drôle, on a certains épisodes qui peuvent traiter de sujets assez touchants, comme par exemple l'épisode dans lequel le beau-frère du Dr Cox va mourir d'une leucémie et c'est présenté d'une manière extrêmement fine qui permet à la fois de ne pas du tout tomber dans un pathos trop lourd, mais de présenter les choses avec beaucoup d'humanité. Et donc, C'est également très appréciable grâce à ça. Je dois dire qu'il y a, de la part des scénaristes de cette série, une véritable créativité et une véritable maîtrise des sentiments qu'ils peuvent faire ressentir aux spectateurs, et c'est assez bien vu. Donc voilà, pour tous ceux qui n'auraient pas encore vu cette série-là, je ne peux que vous la conseiller, et pour ceux qui l'auraient déjà vue, franchement, retournez-y, c'est toujours un plaisir.
Oui, je partage ton avis, ton monologue même, à propos de cette série. J'en garde un excellent souvenir, j'ai l'occasion d'en revoir quelques extraits de temps en temps, et c'est toujours très, très agréable.
On s'écoute un extrait musical, peut-être?
Ce serait une bonne idée.
Voilà.
Qu'est-ce qu'on a là sur la liste, dis-moi?
On a The Choral, Dreaming of You, qui a donc été entendu dans Scrubs.
Très bien.
Top of my heart when it skips a beat.
Skips a beat.
Can't feel no pavement right under my feet.
Under my feet.
I fill my lonely room when I'm dreaming of you. Oh, what can I do? I still need you, but I don't want you now.
Folie qui se termine déjà, le 10e. On se dit au revoir, Aurore. On se retrouve la semaine prochaine en pleine forme.
Comme toujours.
Qu'est-ce qu'on peut encore rajouter? Peut-être qu'on peut retrouver l'actu de votre émission préférée via les différents réseaux sociaux.
Oui, tout d'abord sur la page Facebook de l'émission www.facebook.com/seriefolie.be. Ça, c'est pour la page Facebook sur laquelle on diffuse chaque semaine le sujet de la semaine, un album photo ainsi que certaines musiques qui ont été diffusées dans l'émission et le podcast de l'émission si vous n'avez pas eu l'occasion de nous écouter en direct. Et puis, nous avons également depuis peu un compte Twitter. Donc, si vous êtes sur Twitter, vous pouvez nous follower sur notre compte Série Folie avec S à série et série folie en un seul mot.
Très bien, voilà une bonne idée pour s'occuper intelligemment. Vous pouvez également retrouver tout ça évidemment sur la fanpage de votre station radio préférée, www.facebook.com/mixfm.be. On vous souhaite tout le bonheur du monde à l'écoute de nos programmes. Eh bien, soyez en pleine forme et on se dit à la semaine prochaine.
Mix FM.